carrefour des arts. À la redécouverte du théâtre musical. Une émission proposée par Christophe Mirambeau sur Canal Académie.
Finozzi, bonjour et
bonjour.
Merci de me recevoir dans votre loge.
Eh bien, c'est un plaisir.
Pour Canal Académie. Alors d'abord, je voulais vous féliciter absolument parce que nous avons vu le spectacle et c'est musicalement absolument formidable. Et
merci,
c'est un vrai plaisir d'entendre messager comme ça. Vous avez l'image évidemment du baroque parfait. Et en réalité, vous avez commencé votre carrière dans la musique, j'allais dire contemporaine, mais disons moderne.
Oui, en tout cas dans des répertoires un peu plus tardifs pour ma carrière de chef et puis pour et de violoniste et même pour l'ensemble Mathéus, puisque l'ensemble Mathéus au départ on avait formé un quatuor à cordes et le quatuor par essence naît après la fin de la période baroque au début du classique, du préclassique, le quatuor naît. Et donc moi on parle souvent de l'ensemble Mathéus comme voilà, on va vers, avec l'ensemble Mathéus vers des nouveaux répertoires fin 19e, etc. Et alors que c'est un ensemble baroque, et à la naissance de Mathéus c'était donc par essence pas un ensemble baroque puisque axé sur le répertoire du quatuor à cordes allant des débuts du quatuor jusqu'à la musique contemporaine. Mais c'est toujours un plaisir de chevaucher les siècles et voilà, donc c'est plutôt un retour à la case départ. Moi j'ai appris le violon dans la tradition entre guillemets moderne et la musique et la direction d'orchestre aussi. J'ai travaillé avec Pierre Dervaux et Pierre Dervaux a lui-même dirigé Véronique de Messager et donc c'est une sorte de boucle et voilà. Mais aujourd'hui il y a quand même pas mal de musiciens qui ont la chance d'avoir hérité de ce qui est sorti de bon des conflits des anciens et des anciens modernes d'il y a pas très longtemps entre les baroqueux, les moderneux, etc. Donc nous on a la chance d'arriver un petit peu quand même après le conflit. Tout le monde trouve que les démarches sont riches, se nourrissent et qu'il faut franchir allègrement les siècles tout en allant au bout de chaque répertoire. En fait, il y a moins de spécialistes sur un répertoire, mais il y a plus de multispécialistes finalement, des gens qui utilisent les instruments de chaque époque et qui essayent de retrouver un peu le vocabulaire et le style de chaque époque. Voilà, maintenant, ce qui est intéressant, oh là, c'est une très très longue réponse, hein,
mais
ce que je trouve très intéressant dans la démarche pour moi, hein, par rapport à un de mes plaisirs, ça aura été parce que Messager, même si c'est de la musique de fin 19e, début 20e, ça reste de la musique donc ancienne, pour moi en tout cas, c'est de la musique ancienne, mais c'est de la musique ancienne sur laquelle on a des témoignages directs de certains interprètes. Notamment, je peux plus vous dire, je pourrais avoir l'air d'avoir beaucoup de mémoire, mais Benoît Duterte m'a donné un enregistrement où l'on entend la chanteuse qui chante le rôle d'Agathe.
Tariole Bogé, je crois.
La créatrice du rôle, un enregistrement de 1928. Voilà, je savais qu'il y avait un nom composé quelque part, mais j'ai pas la mémoire
des
noms.
C'est la mère d'André Bogé.
Ouais, ah, mais voilà, c'est dingue. Voilà, donc comme quoi, l'intérêt de on peut écouter un petit peu la manière de chanter de l'époque. Et la manière d'interpréter, donc, et on s'aperçoit que l'intérêt finalement d'avoir des documents et d'avoir, c'est que justement, il faut pas essayer d'imiter, non pas parce que elle chante mal, mais parce que c'est vraiment une autre époque et que la manière l'intérêt d'une manière d'interpréter ou d'une partition, c'est que au moment où ça vit une partition, au moment où elle est créée, au moment où on la donne, eh ben c'est une partition contemporaine, et donc il faut essayer de savoir pourquoi, comment, dans quelles conditions, quels événements, etc., tournaient autour de cette partition, mais donc pour la respecter, pour la rendre crédible, il faut de nouveau l'adapter à tous nos référents de musiciens et de mélomanes du début du XXIe siècle. Donc ces documents sont d'autant plus précieux qu'on mesure le grand écart parfois qu'il faut trouver entre ces interprétations d'alors et celles d'aujourd'hui, et en même temps les ponts qui sont évidents entre les deux. Donc il y a à la fois ça nous fait contredire les sources interprétatives originelles, mais en même temps ça nous remet aussi parfois en perspective, et ça nous remet dans le prolongement direct, dans une sorte d'héritage, etc. Puis moi, avec le souvenir des conseils de Dervaux, il y a des choses qui se mélangent, c'est assez amusant.
Ouais,
il y a une sorte de, il y a des petits fantômes qui sortent, comme quand j'ai vu la partition pour la première fois. Alors, comme tout le monde, je connaissais les thèmes principaux, les deux duos de Florestan et de Véronique.
Celle-là, parce que une de mes questions était de vous demander si vous aviez bénéficié, de la part de Schulens, d'une nouvelle édition.
Non, j'ai cette édition, mais on a travaillé, on a un peu revu, on a vérifié certaines petites erreurs de
la partition. Oui, parce que j'ai entendu des petites choses dans l'ouverture, où je me suis dit, tiens, c'est pas exactement le même mélisme.
Ouais. Il y a quelques fautes dans cette partition-là que vous avez là. De toute manière, des petites fautes d'harmonie de temps en temps, je pense que c'est des fautes d'imprimerie, quoi, et de déjà sur le plan purement musical, et également on a fait un petit arrangement pour la fin, pour le final du troisième acte. Alors c'est un petit compromis, mais on le joue, ce final du troisième acte, mais on a rajouté on a accolé la fin, on a allongé la fin avec la fin du final du 1. Et le temps, ça laissait, parce que la mise en scène, on butait un petit peu sur ce final qui est très court.
C'est-à-dire que c'est aussi, c'est exactement relié à ce que vous disiez sur les habitudes interprétatives. Voilà. La tradition formelle de ce genre d'ouvrage est un final extrêmement court, voilà, qui est un appel aux applaudissements du public.
Voilà. Et donc, vous m'ôtez les mots de la bouche, mais c'est donc on a des rythmes d'habitude de concert ou de représentation complètement différents, des codes qui sont différents, donc respecter absolument à la lettre les codes, c'est pas forcément respecter l'esprit de l'œuvre. Alors on en arrive encore une fois à l'idée de lettre et d'esprit, et le fait est que moi j'ai vu cette partition d'une manière aussi neuve et en même temps, quand je parlais des fantômes tout à l'heure, les fantômes de cette partition, pour moi, ça a été en la lisant de voir dans des thèmes. Bonjour Monsieur Séraphin.
Amenuer.
Oui, mais surtout des airs fredonnés. Je savais que je connaissais cette musique, que je l'avais entendue. Et puis en cherchant bien, je me suis aperçu que j'en ai parlé à un moment donné avec ma maman, que je vois pas très souvent, mais que j'adore, et qui m'a dit, mais tu sais, moi Véronique, je connais très bien. J'étais allé la voir quand j'étais jeune à l'Opéra de Marseille avec mon oncle justement, etc. Et puis je me suis souvenu très clairement, très nettement des airs de Véronique que chantait ma maman quand j'étais petit, comme ça, dans la cuisine, et c'est tout bête, mais du coup, il y a quelque chose qui me relie et qui, je pense, qui relie beaucoup de gens à cette œuvre.
C'est un peu connu.
Voilà. Mais ça va au-delà des souvenirs très directs qu'on peut avoir, parce qu'il y a certains airs qui sont passés à la postérité. On n'est pas très loin. On est à la fois très loin quand on entend les enregistrements du début du siècle, et puis on est sur le plan d'interprétation, mais on n'est pas très loin dans le souvenir. Il y a encore nos parents ou nos grands-parents qui chantonnent beaucoup des airs de cette œuvre. Et pour moi, par rapport à notre génération, c'était une surprise. Ça, c'était une surprise de voir ressurgir tous les fantômes.
Et justement, quand Jean-Luc Chopelin vous a proposé cette œuvre, enfin, vous êtes là où on ne vous attend pas. L'an dernier, vous étiez au Théâtre du Châtelet, vous avez gratifié d'une éblouissante Pietra del Paragone, et l'image de Véronique, finalement, en tout cas en France, ça c'est ma question pour la gratter, c'est évidemment de l'opérette ringarde, spectacle pour vieux, avec de la musique niaise, sucrée et gentillette. Donc est-ce que ce genre de réputation qui court après certaines œuvres vous a dérangé, ou est-ce que ça vous a justement amusé d'aller contre, dans votre travail musical, ce genre d'idées reçues que l'on entend très souvent, malheureusement?
Moi, je commence à avoir l'habitude de ça. C'est-à-dire tout ce qui paraît facile, la légèreté, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est apparemment pas noble ou pas intéressant souvent pour beaucoup de gens. Mais par rapport à pas mal à certains compositeurs que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, Vivaldi ou Rossini, c'est des compositeurs qui sont géniaux, donc ils sont faciles pour moi, ils sont géniaux, ils sont pas faciles pour moi, mais ils sont faciles dans le sens où avec quelques notes, avec des thèmes tout bêtes et avec montés de manière absolument géniale et en même temps avec des instrumentations superbes, ils arrivent à graver des moments de musique pour vous entendez trois notes et vous en souvenez toute la vie. Et ça, c'est des choses, cette grâce, je considère ça comme une grâce de la part de ces compositeurs, comme l'œuvre Véronique elle-même et comme Messager. Cette grâce, ça a toujours, je sais pas pourquoi, agressé certaines personnes. Soit parce que les sujets, le contexte de ces œuvres, tout tel qu'on l'imagine quand on connaît pas trop n'est pas assez noble, ou je sais pas. Moi, je pense que concernant Véronique, c'est de la méconnaissance. Concernant le phénomène du génie qui écrit facilement et donc forcément c'est pas génial. Ça, c'est quelque chose de plus général et de plus profond. La musique, ça remue certaines œuvres, remuent des choses dans un sens ou dans l'autre sens selon le vécu de chacun. Et ça, il faut juste prendre un peu de recul pour le constater. Concernant Véronique, c'est vraiment de l'ignorance d'entendre dire que c'est une partition facile ou stupide, parce que la musique, enfin, quand on est musicien, on ne peut que s'apercevoir de la qualité de la partition, de la manière dont c'est construit et la finesse de l'écriture, pour parler simplement formellement. Donc c'est si vraiment en tout cas moi c'est une partition que j'aime profondément, et comme je l'ai souvent dit, pour faire un opéra il faut être convaincu de la partition qu'on travaille, parce que c'est des mois de travail, faut se lever tous les matins pour aller au boulot si c'est à contre-cœur, si on se dit oh mince, j'aurais plutôt dû faire du Mozart ou du Mahler, enfin et j'ai J'adore Mozart, c'est pas le problème, comme tout le monde. Mais c'est voilà. Moi, c'est vrai que quand Jean-Luc Chopin m'a proposé de faire cette œuvre, j'ai réfléchi pendant un mois. Je lui ai dit, je demande un mois de délai pour répondre. J'ai revu la partition et j'ai été convaincu. Mais j'ai répondu d'ailleurs avant la fin du mois. Voilà, c'est aussi parce que cette tradition d'il y a 50 ans de faire chanter aussi Véronique par des acteurs, il y avait tout un, comment dire, une tradition qui était sur le moment dans par rapport à la vie artistique, culturelle, traditionnelle ou tout ce qu'on veut, ça avait son sens. Et que les enregistrements qu'on a gardés, souvent les gens disent « Ah oui, j'ai l'enregistrement de ci ou de ça ». Et quand on écoute, évidemment, on entend des acteurs qui chantent. Donc, par rapport à aux habitudes qu'on a maintenant d'écouter les enregistrements des CD, de studios, de choses mixées avec des sons incroyables et des voix somptueuses en enregistrement, on peut plus l'écouter. Ou alors on va l'écouter une fois puis pour rigoler quoi. On établit des comparaisons qui n'ont aucun sens. Et donc tout ça mis bout à bout, ça enterre une œuvre aussi jolie, aussi géniale, aussi fraîche dans le bon sens que Véronique. Et puis aussi on sait que faut pas avoir peur d'avoir des coups de cœur, faut pas avoir peur justement d'aller défendre des répertoires que l'on aime. Pas pour les services rendus à la patrie de messager d'avoir composé Véronique, c'est pas ça. Moi personnellement, ma démarche, c'est d'être un peu amoureux d'une œuvre et d'en avoir énormément de plaisir et de le partager avec les musiciens et donc avec le public éventuellement. C'est donc ça. Mais en même temps, c'est pas sans risque parce que on sait très bien les agents, les amis, les directeurs de salle, etc., les journalistes, tout le monde, il y a plein de gens pour vous dire, ah oui, mais pour ta carrière, il vaut mieux que tu fasses ci ou tu fasses ça, il faut surtout pas que tu fasses Véronique. Vraiment pour le faire malgré tout, faut vraiment aimer, quoi. Donc ce qui sort, c'est un grand plaisir de la part du public et de pas mal de personnes. Alors évidemment, il y a quelques instruments dedans, mais c'est normal, c'est la diversité de la vie et des goûts.
La question suivante a été concernée le fait que c'est de la musique très très cultivée et vous nous avez fait un plaisir terrible, en tout cas vous m'avez fait un plaisir terrible, c'est de faire ressortir, pour qui veut l'entendre, la multiplicité et la quantité de références musicales contenues dans la partition et spécialement dans l'orchestration. Je pense à l'ensemble de Séraphin. Bonjour Monsieur Séraphin. Je pense absolument à la lettre et au couplet de la grisette. Et je pense évidemment à la ronde, très ancien régime, d'Agathe au deuxième acte. Alors, quand vous lisez une partition comme ça, vous n'avez pas l'habitude, sur laquelle vous n'avez pas l'habitude de répertoire que vous ne fréquentez pas forcément assidûment, quel est le plaisir d'une part
Alors, le plaisir c'est vraiment une question importante par rapport à cette partition. Le plaisir, c'est justement de les enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça le côté parodique de la partition par rapport, en tout cas, rappel référent, la parodie aussi de l'air de Donizetti, d'Ermerance, et qui finalement donne un air magnifique. C'est ce qui est, ce qui, vous parliez du côté cultivé de cette œuvre, intelligent, c'est que justement les choses ressortent quand on les connaît, mais quand on n'appuie pas lourdement dessus, justement le côté, par exemple, le meilleur exemple pour moi c'est l'air d'Ermerance façon Donizetti avec le solo de flûte, etc., les pizzes et puis les tenues d'alto qui ressortent, et en fait de le prendre très au sérieux comme un moment un petit peu dramatique. C'est ce qu'on en avait parlé avec Fanny Ardant. Le fait de jouer complètement le jeu justement de cet air, ça saute d'autant plus aux oreilles la référence voulue. Et donc c'est en quelques instants à la fois connaître les multiples référents, s'en amuser au second degré, mais les faire sérieusement. Donc je suis content que vous m'en ayez parlé, que vous avez apprécié justement la manière de les lire, parce que à un moment, enfin, on est toujours en train de douter sur ce qu'on est en train de faire. Oui, mais finalement, est-ce que ça s'est entendu, ou est-ce qu'on n'a pas trop appuyé dessus, on n'a pas vu que du coup, est-ce qu'on s'est pas trop moqué de justement, voilà, c'est une balance. Il faut pas les ressortir complètement. Il faut le fait de savoir ce qu'on joue, forcément ça s'entend et ça se ressent, mais ça permet de multiplier les angles de d'écoute et de jeu et d'écoute. Et donc non, ça c'est un bonheur à chaque fois que ce soit Véronique de toute façon quand on travaille une œuvre et vu le tuilage continu de l'histoire de la musique, même si parfois il y a de grandes pliures, les racines de chaque œuvre ou de chaque compositeur qui se plonge vers tel ou tel compositeur, tel moment, telle époque, etc. C'est l'une des essences de du plaisir de la musique, c'est-à-dire les projections, les référents, l'avant, donc la vie, comment les choses se sont troublées à un moment donné et ont dévié vers. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement je m'amuse un petit peu à sauter les siècles, parce que du coup ça me revient encore plus dans la figure tout ça, et c'est vraiment ça fait partie des grands plaisirs de cette partition pour moi.
Alors j'ai été très stupéfié de votre manière de phraser, très inattendu dès le début, dès l'ouverture, la manière de phraser les traits, où vous appuyez presque en ligne par deux d'abord sur les deux premières doubles avant d'effacer absolument le reste. Et j'avais très envie, à titre personnel, de vous demander qu'est-ce qui motivait cette manière de phraser, parce qu'on n'a jamais entendu cette musique comme ça. En général, tout le monde la joue tout droit, ouais, sans faire de d'effet ou de...
Mais en fait, c'est que là, c'est vraiment, j'ai réfléchi, je sais pas, c'est pas la vérité, c'est pas une solution. C'est simplement que le secret, peut-être s'il y en a un, de réussir, ou en tout cas de bien avancer dans cette partition, c'est aussi de se laisser un peu de liberté par rapport en tout cas je crois que les phrases elles étaient clairement définies, mais il y avait pas particulièrement d'exagération dans une phrase. J'ai essayé de faire aussi sonner par rapport à l'orchestre les instruments vocalement. J'ai essayé aussi de laisser les choses assez pendant les rapports avec la scène, les chanteurs, etc., de laisser le chanteur le plus libre possible pour qu'il puisse vraiment s'amuser de la partition, quitte à ce que on navigue parfois non pas de manière décalée comme certains ont pu le croire. Mais justement, qu'on soit dans un mouvement de liberté entre la scène et l'orchestre, c'est la parabole de la mise en scène. Moi, je souffre quand on me demande de faire chanter de jouer avec un chanteur qui a le dos tourné à la scène. Autant la manière de convaincante sur le plan des sentiments pour moi de Fanny, que j'ai vu travailler Fanny Ardant, j'ai vu le comment dire, c'est les séances des séances de direction d'acteurs que je personnellement j'avais pas encore vu à l'opéra. Alors j'apprends à connaître Fanny Ardant. Je suis pas là pour lui tresser des lauriers du tout, mais je vois l'implication, la sincérité des sentiments qu'elle a mis à la passion qu'elle a mis et qu'elle prenait sur scène pour montrer. Elle jouait les scènes avec les chanteurs. C'était de la vraie direction d'acteur. Comment dire, l'intensité de chaque mot était sur le plan du texte. Après les choses se font, se défont, marche, ne marche pas. Mais j'étais vraiment convaincu sur le plan de la dramaturgie des sentiments parce que voulait Fanny, à 100%. Au point de risquer d'accepter, bon, j'ai fait scrogneugneux, j'ai râlé quand je me suis retrouvé à certains moments donnés avec les chœurs dos tournés. Mais par exemple, pour le chœur du début des fleuristes, j'ai fait modifier certaines choses parce que au début ça faisait une vraie boule, ils étaient en boule comme un môle de rugby là, vous savez, et donc les voix sortaient pas. Donc je lui ai dit, écoutez, je comprends très bien le rassemblement, le regroupement, mais il faut laisser sortir les voix. Alors je vais faire attention, on va essayer de fonctionner. Quitte à ce que, mais le fait que ça soit vraiment vécu, que les sentiments soient vécus et que tous les cœurs ne soient pas tout le temps face à la scène avec les bras ballants, c'était quelque chose qui pour une fois m'allait par rapport aux sentiments avec lesquels j'avais vu se développer, enfin les idées de sentiments, les idées dramaturgiques qu'avait Fanny Ardant me correspondaient tout à fait par rapport à la partition. Si j'avais fait la mise en scène, j'aurais pas fonctionné comme ça sur le plan, forcément sur le plan spatial. Mais je vais dire que pour une fois, bizarrement, la gêne occasionnée correspondait vraiment à quelque chose pour moi. Donc, on a plutôt fait des compromis les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que peut-être des risques qui sont plus grands que le bénéfice que ça apporte sur le plan dramaturgique, des risques musicaux. Alors là, je me suis éloigné de votre première question par rapport au phrasé, mais je crois que tout ça va avec. C'était les différents thèmes. Comment caractériser.
Je vous ai entendu que c'était un pur délice quand même.
Ah ouais, c'est gentil, c'est gentil. Mais enfin, je veux dire, ça me fait plaisir que ça vous ait plu. Mais le fait est que le début de la première scène, le cœur des fleuristes, cette musique on cherche des idées toujours pour parler aux chanteurs, aux musiciens, aux chœurs, etc., pour analyser, pour leur imprimer un sentiment pour que ça ressorte. Et donc souvent quand on parle de musique, on parle de couleurs, on parle de timbre, de rythme. Mais par exemple, la première idée qui se dégage, se dégager est bien le mot pour la première scène, pour moi c'est l'odeur, c'est une musique qui c'est l'odeur des fleurs, un parfum. Donc ça commence par ce crescendo qui monte, le désir aussi qui monte de ce crescendo et donc les volutes de parfum. J'ai vu Fanny s'impliquer dans les sentiments des différents personnages d'une manière personnel et donc je pensais que c'était bon aussi que chaque couleur, que chaque odeur, que chaque idée que j'avais dans le cœur, pas plus que dans la tête même par rapport à cette musique, et ben je l'exprime en travaillant un peu les phrases d'une manière personnelle. Alors oui, par rapport aux enregistrements que j'avais entendus, finalement je me suis dit mais mince, c'est complètement différent. Après, c'est le. Je crois que c'est aussi, c'est peut-être aussi, c'était le moment de rendre contemporaine aussi cette partition. C'est ce qu'on disait au début de cette émission. C'est aussi en n'ayant pas peur forcément de. Voilà, je crois qu'on n'a pas changé. En disant ça, c'était. On parle vraiment de phrasé. On parle pas de notes, de changement d'instrumentarium ou autre. On a. C'est la manière de respirer la partition qui ne se basait pas sur ce que on avait forcément entendu.
C'est ce que j'ai trouvé absolument fantastique dès votre levée de baguette. Je me suis dit, ce sera pas la Véronique de tout le monde.
C'est pas pour faire différent.
Mais non, j'ai bien compris.
Pas se l'approprier non plus, c'est pas le bon mot, je sais pas comment dire, mais c'est pour la respirer d'une manière naturelle par rapport à ce que moi et les musiciens ressentent, parce que le pire moyen de desservir une œuvre, c'est de la jouer sous les conseils d'eux ou sous le pur héritage d'eux, et si on ne le sent pas, soit faut pas le faire, ou si on est convaincu que ce qu'on a au fond du cœur peut faire parler aussi une partition, et là on peut le faire, mais dans ces conditions là alors c'est vraiment bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment de rester soi-même par rapport à une partition et de savoir si ou non ce soi-même va correspondre à cette partition. C'est finalement le choix au départ. Après, une fois qu'on l'a fait, c'est pas pour dire qu'il faut l'assumer, etc., mais si on le fait, le choix c'est qu'on est sûr qu'on a quelque chose en soi qui peut communiquer cette partition. Maintenant on se trompe peut-être, hein, ça c'est, mais on le fait c'est de bonne foi. Voilà, c'est l'idée, c'est de bonne foi et de avec amour.
Oh,
Moi, j'étais ravi de l'accueil du public. Hein. Je veux dire, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient ravies de retrouver cette œuvre et puis de la retrouver comme ça, tant mieux. Maintenant, c'est... Voilà,
Est-ce que ça vous a donné envie de refaire du messager parce que vous êtes une star, enfin on dirait en 1953, on dirait une vedette, vous êtes très occupé et c'est vrai, en vous entendant dans la fosse diriger cette œuvre, je me suis dit, mon Dieu, il serait merveilleux dans la basoche, par exemple.
Ouais, j'aimerais éventuellement aller dans du messager un peu plus tardif, mais ça va être une question d'emploi du temps. Sans aller jusqu'à dire ce que vous disiez tout à l'heure, maintenant à l'opéra, les choses se font tellement à l'avance que les coups de cœur qu'on a en cours de route, on se dit, oh merde, pardon, vous voulez dire, voilà ce qu'on se dit.
Redites-le.
Off flûte, c'est plus musical. J'aimerais faire ça la saison prochaine ou quoi, mais bon, voilà, c'est déjà fait, signé, et puis on est content on n'est pas trop malheureux parce que il y a quand même, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'accepte des projets quand je les aime. J'ai la chance en ce moment, ça durera peut-être pas toujours, ça je pense, mais en ce moment j'ai la chance de pouvoir accepter les projets que j'aime, donc c'est vraiment une grande chance, un privilège, et tant que c'est comme ça, j'en profite un maximum. Maintenant, peut-être qu'un jour il faudra faire autre chose, mais s'il faut vraiment choisir dans du répertoire qu'on ne sent pas, je pense qu'il vaut mieux faire autre chose parce que faire de la musique à contre-cœur, c'est le cauchemar. Donc oui, j'aimerais voir d'autres messagers. Et j'aimerais aussi, du coup, ça m'a remis en pas en phase parce que j'ai toujours été, mais toute cette musique française de cette époque, c'est incroyablement beau, c'est incroyablement riche, et ça donne plein d'idées. Après, il faut avoir l'occasion, le temps de les réaliser.
Alors, en sous-texte, vous êtes en train de raconter que la guerre des écoles est finie, la guerre des baroqueux, enfin, et les appartenances de répertoire à un certain type de personnes.
Ouais, c'est jamais fini parce que c'est justement les guerres en musique ne sont pas terminées parce que les sensibilités sont tellement différentes et ce qu'on accroche à ce qui, comme référent inconsciemment ou consciemment, à ce qui nous fait vibrer, à notre amour personnel de tout, des choses, de la vie, etc. Ce qu'on accroche à la musique est tellement important personnellement que de penser ou de voir une personne le faire complètement différemment et vibrer à autre chose, parfois ça peut agresser. Donc et puis on y met tellement de cœur que à faire de la musique, chacun, tout le monde, tous les musiciens y mettent du cœur, qu'on veut absolument, c'est normal, on veut comme on montre l'intérieur, on espère que tout le monde aimera cet intérieur, on montre ce qu'on a sur le cœur, on montre comment on est fait quand on va au bout de la musique. Alors après, le problème, c'est qu'on est fait que comme, justement, on est fait, on est que nous. Donc, forcément, il y a des gens pour qui votre âme va être très décevante. Et c'est toujours une grosse claque de donner son âme. Bon, là, les seules choses, moi, que je peux vivre mal sur le plan du refus, ou parce que bon, après c'est le jeu, on n'aime pas, c'est éventuellement qu'on puisse mettre en doute la sincérité avec laquelle on fait de la musique. Des fois j'entends dire de tel ou de tel musicien que ah oui, il en fait trop, ou mal, et oui, quelqu'un peut en faire trop, quelqu'un peut avoir un jeu de scène, quelqu'un peut faire du cabotinage. Mais là, ça n'est que du spectacle. Mais de confondre, voilà, moi je me prends pas du tout pour Jacqueline Dupré. Je ne suis qu'un tout petit puceron à côté de Jacqueline Dupré. Mais je sais que quand elle a commencé, il y a des critiques qui disaient qu'elle avait des que c'était excessif, que c'était du maniérisme, qu'elle avait des excès de sentiments, etc., etc. Et peut-être par rapport à d'autres musiciens, d'autres interprètes de son époque. Mais aujourd'hui, et de bonne foi, je crois que la plupart des gens, en regardant des vidéos, en écoutant des disques de Jacqueline Dupré, voient que c'était son âme qu'elle mettait devant tout le monde, quoi. Et je crois que c'était une erreur d'appréciation que de juger, de mal juger la sincérité de son propos. Et je crois que ça c'est pour tout musicien. Les guignols, avec la musique pour se faire remarquer, il y en a peut-être, mais je pense que c'est pas si fréquent et que il y a beaucoup de personnes sincères et qu'il faut les aimer ou les détester, mais faut pas, c'est pas une analyse, c'est pas souvent crédible de mettre en cause facilement la sincérité de voilà, ça c'est quelque chose de personnel. Après qu'on aime, qu'on déteste, c'est tout à fait normal.
Et justement, quand vous dirigez la Renfosse, qu'est-ce que vous dirigez, de la musique ou du théâtre?
Eh ben moi, je pars toujours d'un pour l'opéra notamment, mais même dans la musique, je parle toujours c'est la dramaturgie d'une œuvre qui me parle au départ, c'est-à-dire quoi, la suite de sentiments que ça va m'évoquer, est-ce que ça raconte une histoire, est-ce que ça ne raconte pas d'histoire, mais est-ce que ça ramène à plusieurs histoires, mais c'est les sentiments profonds de d'une œuvre, d'un passage, d'un thème, de ce que ça renvoie de vibrations émotionnelles. Mais pour moi c'est ça la musique, c'est alors après la manière dont le vocabulaire est fait, la phrase, c'est des possibilités supplémentaires de sublimer ces sentiments. Donc quand on parle d'abord de dramaturgie, on pense théâtre, mais c'est le théâtre, c'est la musique musicale, des mots, et voilà. Donc c'est il y a de la dramaturgie musicale aussi. La musique, c'est une formule que j'ai donné un jour, je sais même pas si elle est de moi, mais c'est le média des émotions, c'est un moyen de communiquer d'une manière apparemment moins concrète que la parole, de communiquer ce qu'il y a peut-être de plus en plus de plus important pour les êtres humains, c'est leurs sentiments, c'est la musique, c'est quelque chose aussi qui ne doit pas forcément passer par le cortex cérébral, mais qui se propage directement au cœur et partout, comme dirait Hermerance dans le spectacle. et c'est quelque chose donc diriger de la musique ou du théâtre, je sais pas, j'échange des émotions et grâce à la musique, c'est le supraconducteur des émotions, la musique, et c'est comme ça que je vis les choses. Mais je pense pas, je sais pas le nom des notes qui s'affichent dans ma tête, j'ai des émotions sincères, réelles, et je vibre beaucoup. Je suis bouleversé, je peux avoir les larmes aux yeux en dirigeant, et j'ai souvent entendu dire, et ça m'inquiète, parce que des très grands artistes ou des grands acteurs ou grands musiciens ou musiciennes dire qu'il faut cette distanciation par rapport à la musique pour avoir à la fois l'émotion et le contrôle. Et eh ben moi je contrôle pas, donc je pense qu'il reste un minimum de contrôle, mais l'émotion me submerge, je sais pas si elle submerge ceux qui m'écoutent, mais en tout cas égoïstement ça me submerge sincèrement au plus profond de moi-même, et c'est si je peux expliquer le phénomène que je ressens maintenant, je sais pas si c'est très... Je me suis pas trop auto-analysé, hein, mais c'est ce qui se passe, c'est je vis vraiment la scène. Voilà, je vis la scène quand il y a des scènes de grand enthousiasme dans Véronique où je suis au comble de la joie, et quand Véronique à la toute fin dans sa scène parlée, quand Florestan la laisse, la quitte, et qu'on entend le c'est moi qui ai proposé, hein, je suis très sentimental,
c'est une ravissante,
le petit thème de l'escarpolette en souvenir de boîte à musique là, bon je vous remercie. Je suis vraiment heureux de votre enthousiasme, ça me fait plaisir. Mais bon, moi je me suis dit, quand j'ai proposé ça, on m'a dit, oh là, t'as pas peur que ça fasse kitsch. Mais non, c'est ça l'amour, justement, c'est l'amour brisé, le souvenir qui... Enfin bref, j'ai ma petite larme à ce moment-là. Puis Amel, qui est quelqu'un de très souriant, donc le rôle-titre de Véronique, quelqu'un qui a toujours le sourire aux lèvres tout le temps, là, elle a un air si grave, si triste. Bah, mais j'y crois à fond, je suis vraiment gamin pour ça et je suis un peu bébête par rapport à la musique, je me laisse aller à mes émotions primaires mais bon, pour atteindre cet état là il faut beaucoup travailler avant pour être complètement dégagé de beaucoup de contingences. Faut qu'on en soit à l'état de réflexe pour pouvoir avoir des émotions réflexes aussi, pour pouvoir parler ces émotions. Donc ça a l'air un peu bébête, mais il faut le préparer pour redevenir bête. Et ben il faut beaucoup travailler. C'est bizarre. Hein,
Jean-Christophe Spinozzi, merci de m'avoir reçu dans votre loge et puis merci beaucoup tout simplement de votre générosité d'homme et d'artiste.
Merci à vous.
See you. Thank you.